Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Comics Weekly au sommaire de cette semaine. Le Marvel Now Point One qui va nous apprendre les nouveautés de l'univers Marvel. Et puis bien sûr le deuxième numéro d'AVX Consequences. Nous aurons aussi bien d'autres publications Marvel à traiter. Nous parlerons du Cyberforce, le relaunch de la franchise de Mark Silvestri. Enfin, chez DC, nous aborderons le Justice League, le Wonder Woman ou encore le New Guardians. En fin d'émission, nous aurons aussi le mail d'un auditeur. Tout ça juste après le générique pour le 117e Comics Weekly. Avec moi cette semaine, Mister en Ebony.
Bonsoir à tous.
Corwin.
Bonjour.
Kinghead.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Et l'inébranlable, l'inénarrable, l'irritable, Sam.
Oui, bien qu'aujourd'hui ça va, je suis calme. Faut dire, après 10 à 11 heures de sommeil, ça va. J'ai fait mon dodo, donc ça va.
Tu es calme, mais attendons de parler de certaines des sorties de cette semaine et on verra si ton calme légendaire reste de rigueur.
De toute façon, Sam, on sait que tout va bien du moment qu'il te parle de son dodo ou de son caca.
Oui, ça fait partie des incontournables.
Alors, on commence à le comprendre.
Allez, on va commencer les sorties de la semaine avec la sortie attendue chez Marvel cette semaine. C'est le Marvel Now Point One, qui est donc ce que le futur de Marvel nous réserve. Nous avons, à l'image du Marvel Point One que l'on avait eu juste après Fear Itself, plusieurs petites histoires d'une huitaine de pages, entrecoupées d'une histoire un peu plus longue. Alors, c'est écrit par Nick Spencer, Brian Michael Bendis, Jeff Loeb, Denis Oplès, Matt Fraction, Kieron Gillen, et au rang des artistes, on retrouve Luke Ross, Steve McNiven, Ed McGuinness, Gabriel Hernandez-Walta, Michael Allred et Jamie McKelvey, accompagné de Mike Norton. Donc, quand même, des gros noms. Ouais. On va pas se le cacher. Est-ce que le résultat est à la hauteur des noms que l'on nous a annoncés? Eh bien, malheureusement, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément le cas pour tout.
La bonne nouvelle, c'est que c'est mieux que le Point One de l'année dernière, qui était une purge sans nom.
Je suis mitigé. J'étais plus enthousiaste.
On partait de tellement bas l'année dernière que, effectivement, quand j'ai fini l'épisode, je me dis, ah, c'est une agréable surprise. Je n'ai pas envie de me torcher le cul avec.
Bizarrement, moi, j'étais plus enthousiaste avec les lectures de celui de l'année dernière. Il y avait plus de trucs qui m'intéressaient qu'au sortir de celui-ci, tu vois.
Je trouvais que les histoires là étaient quand même meilleures et l'an dernier il y avait des choses qui n'ont abouti absolument sur rien. Là au moins on sait que chaque petite histoire va aboutir sur un titre.
Oui, alors tu sais, on n'est pas à l'abri d'une annulation.
C'est impossible. Ouais, non, maintenant ils vont pas annuler du Marvel Now quoi. Sinon c'est vraiment que Marvel est en faillite. Ça me ferait rire en même temps. Bon. Si le jour où ils annulent un titre Marvel Now avant la sortie, je rigole. Mais
Ça a déjà été fait, hein. Ils ont déjà annulé des titres avant la sortie.
On va essayer de prendre les choses dans l'ordre à peu près.
Ouais.
On a une grosse histoire qui se passe avec Nick Fury Jr., puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Nick Fury Jr. et son pote l'agent Coulson, qui se retrouve face à un être venu du futur, 100 ans dans le futur, et qui fait « moi je sais des choses ».
Et qui a fait un gros coup à la bourse et qui a récupéré je sais plus combien de milliards dans ce coup.
C'est le prologue de Secret Avengers, donc. J'ai toujours pas compris le rapport avec. Hein,
c'est la version futuriste de Jérôme Carviel, en fait.
Oui. C'est son clone maléfique, à part que là, au lieu de les paumer, les milliards, il les récupère.
Ouais, voilà, c'est ça. Il répare ce qu'il a fait dans le passé.
Pour moi, c'était la partie la plus faible du Point One, en fait.
Oui, c'était chiant comme la mort, quoi.
Cette histoire qui est censée faire le fil conducteur, c'était vraiment chiant, comme vous dites.
Ça menait à rien, c'est verbeux, enfin, pas intéressant.
Enfin, je veux dire, le retour du personnage, donc, du Nick Fury, du fils de Nick Fury, là, se fait en plus de façon pas très maligne, je trouve, puisqu'il replace pas vraiment l'histoire, enfin, le personnage dans son histoire. Il arrive un peu sur la soupe.
Tu sais, soit ce sont des fans de Marvel et ils sont déjà au courant que Nick Fury a changé, que c'est son fils et qu'il est black maintenant et qu'il ressemble à celui qu'on a dans les films, soit ce sont des nouveaux lecteurs qui ont été attirés notamment par l'univers des films, et à ce moment-là, ils savent déjà qui est Nick Fury. Pour moi, il n'y avait pas besoin de le replacer, je pense.
Moi, ce qui m'a fait marrer, c'était la petite phrase de fin. Il faut qu'on parle du projet Initiative. T'es limite, j'allais entendre la musique. Tin, 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 tin. Non mais attends, mais franchement, c'est ridicule quoi. C'est vraiment histoire de coller au film. T'as le mec, on lui fait la même tête que le Nick Fury du film, et en plus on lui fait sortir les mêmes répliques. Et en plus de ça, le projet initiative, je suis désolé quoi, ça fait des années que ça dure. Je me suis dit non, c'est pas vrai, ils vont encore repartir là-dessus.
Eh bah oui,
on verra. Bah, on verra, parce que peut-être que le projet initiative n'est pas exactement la même chose qu'avant.
Bon, parlons des autres segments. On peut, ouais, on est tous d'accord, c'est de la merde. Hein, ça,
Celui-là était mauvais, ouais.
C'est... Non, moi c'est mon préféré. Non, je déconne. Non, ça va. Un peu d'humour pour dérider. On a aussi, alors on va peut-être pas forcément les prendre dans l'ordre du magazine. Hein, je les prends comme ils sont sur la page finale où on a tous les auteurs. Comme ça, c'est plus simple. Star-Lord, écrit par Brian Michael Bendis, qui est donc une introduction au Gardien de la Galaxie.
Alors, au miracle, j'ai aimé un truc écrit par Bendis dans du mainstream.
En même temps, il n'y a pas beaucoup d'écriture. Hein.
Voilà, oui. C'est surtout pour admirer Steve McNiven, qui est, je trouve, de retour à son meilleur niveau là-dessus.
Oui, c'était vraiment assez sympa graphiquement, et même moi, l'histoire, voilà, je connais pas les Gardiens de la Galaxie, mais ça m'a donné envie d'aller voir un peu plus loin, quoi.
Bah, très cinéma, quoi. Très cinéma.
On place le début de l'origine de Peter Quill, voilà. Toi, par contre, King Edge, je sais que ça t'a pas plu.
Enfin non, c'est pas ça, c'est très beau graphiquement, c'est juste que pff, ça il y a 8 pages, ça se lit en même pas une minute. Et surtout en fait j'ai trouvé que c'était pas très bien raconté l'histoire, enfin ça, puis bon, c'est un personnage que je connais pas très très bien, là c'est un flashback, je sais pas.
Le truc c'est que Bendis simplifie vachement les choses quoi, comme d'habitude. C'est il en fait le minimum syndical autour d'un personnage qui avait été rendu riche par Andy Lanning et Dan Abnett, et c'est dommage.
Alors, on n'avait pas précisé, là, pour l'histoire de Nick Fury, Secret Avengers, ça débarque donc le 13 février 2013. Cette histoire des Gardiens de la Galaxie débarquera dans un numéro 0 prévu pour sortir le 27 février 2013. Donc, on a le temps de voir venir. À la suite de ça, on trouve Nova.
Ah, de la merde.
Bah, Nova, c'est non. Marvel Kids.
Oh,
Nova,
je suis pas
c'est
d'accord,
du Marvel Kids. Nova, c'est du Marvel Kids.
C'était une purge.
C'était vraiment pas terrible. Hein.
Je vais même pas donner mon avis parce que ça corrobore exactement ce que je dis sur ce foutu personnage de Sam Alexander depuis le départ. Donc réécoutez les anciens weekly si vous voulez connaître mon avis. Mais de toute façon, je pense qu'avec mon ton, vous avez compris que je suis pas enjoué. Quoi.
Bon, alors moi déjà, les dessins, j'ai bien aimé.
Oui, mais Ed McGuinness, hein, faut pas déconner.
J'aime bien Ed McGuinness.
Et peut-être que c'est pour l'histoire.
Et ensuite, pour l'histoire, je suis désolé par rapport à l'histoire avec Peter Quill, il y avait même limite plus de contenu dans celle-là. Limite. Mais sinon, non, il y a un gag marrant sur Superman. Oh,
enfin, attends, voilà.
Alors, l'histoire de Nova, on va faire simple, c'est un ancien ennemi qui s'attaque au nouveau Nova parce que, il veut pas qu'il le réutilise.
Oui,
mais c'est lui qui va le chercher.
Diamond Head, hein, qu'on avait pu voir dans la première série Nova du nom, qu'on avait revu aussi, dans les New Warriors, etc., etc.
Et qu'on avait revu la dernière fois dans un épisode, de Nova écrit par Dan Abnett et Andy Lanning, qui se faisait exploser quand Nova revenait sur Terre, au moment où l'initiative était, en plein déploiement.
Oui. Et ça donne le ton de la future série en fait, parce qu'on voit que
ça donne pas envie.
Ouais, c'est très enfantin, beaucoup d'humour. Il y aura sans doute pas vraiment de drame.
Non, attends. Drôle, mais je me permets de te corriger, King, tout de suite. Beaucoup de tentatives d'humour.
Voilà. Ouais, c'est ça, pour voir un truc drôle, il faut aller le voir le truc sur Young Avengers de Karen Gillen et James McAvoy que j'ai trouvé.
Nova débarque le 20 février 2013. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, marquez-le sur vos calendriers. Hein. donc après on a une histoire qui est appelée Miss America in the New World, Kieran Gillen qui donc revient pour les Young Avengers. Ça c'était la meilleure chose.
Ouais.
Pour moi.
Même moi qui n'étais pas séduit par Johnny Interm History, du coup ça m'a donné envie d'aller le voir, puisqu'il y a Kid Loki et qu'il est très drôle.
Il est toujours comme ça en plus, Kid Loki.
Et la fin avec le Wanted pour rechercher les différents membres, moi ça m'a fait éclater de rire.
Oui, moi aussi, j'ai bien rigolé à ce moment-là.
C'est vraiment, en plus, il reprend le classique Loki qui est à la formation d'une équipe d'Avengers. Voilà. Alors si on a un Kid Loki, qu'est-ce qu'il fait? Les Young Avengers, logique quoi. Benny, ça t'a plu toi ça ou pas?
Ouais, moi j'ai bien aimé. Bon, alors, peut-être moins enthousiaste que vous, j'ai pas éclaté de rire non plus quoi, mais... non, c'était une bonne trouvaille ce truc-là. C'était sympa, quoi. C'était frais. Le seul petit bémol, c'est est-ce qu'on reverra vraiment ce personnage de Miss America? Va vraiment se passer dans le futur? Attends, moi je suis pas certain.
Ça se passe pas dans le futur, ça.
Non, ça se passe dans le présent. C'est sur une terre parallèle.
Dans le présent. C'est une terre parallèle. C'est bien marqué Earth 212 au départ.
Ah oui, d'accord. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est une terre parallèle. Mais est-ce que la série principale va se passer sur une terre parallèle, ou alors
non.
Est-ce que
tu n'as pas compris? Mais Miss America a la capacité de changer de réalité, en fait.
D'accord. Donc on la reverra dans la réalité normale.
Ah bah oui, elle est recrutée dans l'équipe.
D'accord, ok.
Puisque par un stratagème, il fait en sorte qu'elle soit présente.
Ouais, au fait, il fait ses petites courses à travers les dimensions, quoi.
Voilà, mais façon Loki.
Ouais, façon Loki. Non, mais j'ai bien aimé aussi tout le dialogue avec le resto et tout. C'était marrant, quoi, dans le resto.
Mm. King Ed.
Ouais, moi, c'était sympa à lire. C'est pas l'histoire qui m'a le plus plu, moi. C'est celle de FF, mais.
Ah non, j'ai testé.
Arrivée de Young Avengers le 23 janvier 2013. Et donc on a ensuite une partie sur Ant-Man qui sera donc au casting de FF.
Ouais. Moi c'est celui qui m'a le plus plu. Je trouvais qu'il y avait de l'humour, c'était bien dessiné. Non. C'est toujours
Michael Red, oui. Ça, d'accord, j'ai beaucoup aimé. Par contre, le scénario, il n'y a rien. C'est...
Oh si, c'est pas mal.
C'est complètement.
Moi je suis d'accord avec Sam.
C'est Ant-Man qui cherche à se venger.
Ouais, moi j'ai trouvé que c'était assez émouvant.
Attendez, parlez pas tous en même temps.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait certains passages qui étaient assez émouvants et le personnage de Scott Lang que je connais pas très très bien, je l'ai trouvé plutôt charismatique et je serais content de suivre ses aventures. Et puis c'est même si ça se termine avec un petit peu d'humour et peut-être pas vraiment comme on s'y attendait, ça donne un peu le ton d'un comics qui sera sans doute un peu plein de folie et
moi j'ai bien aimé aussi.
Et super bien dessiné quoi.
C'est surtout le moyen de nous montrer que Scott Lang va devenir un peu plus. Un peu plus engagé, quoi. Fini d'être un second ou un troisième couteau. Voilà, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et de se venger un peu, et donc il est un peu plus rebelle, tu vois.
Oui, rebelle gamin. Hein.
Oh. Oui, mais en même temps, les dessins de Michael Red donnent déjà cet aspect un petit peu enfantin, obligatoirement. Je pense que dessiné par un autre artiste, on n'aurait pas forcément cette sensation-là que c'est un petit peu fantaisiste, quoi.
Oui, passons au suivant là, parce que.
Benny, tu voulais dire quelque chose?
Oui, non, mais comme King Ed, moi j'ai trouvé ça assez émouvant. J'ai plutôt bien aimé, j'ai été agréablement surpris parce que personnellement en Red, je m'en fiche quoi. Donc c'était pas ça qui allait me faire aimer cette histoire.
Arrivée de FF le 28 novembre 2012, c'est la série qui sortira le plus rapidement. Et on termine avec Forge dans Crazy Enough, ce qui est censé être le début de Cable and X-Force qui débarquera le 12 décembre. Bon, alors là, moi franchement, pas emballé.
Moi non plus. Surtout que grosso modo, il nous explique pas comment il s'en sort vivant. C'est grosso modo, il a été pris dans les débris, ça fait 6 mois qu'il y est. Voilà. C'est un peu du foutage de gueule, hein.
Non, mais il s'est nourri de ce... Je sais pas.
Forge est devenu une sorte de Deadpool.
Oui.
En quelque sorte.
Il est complètement barré. Moi, il m'a fait penser à Gollum, en fait. Il se parle un à lui-même.
Ouais. Moi, j'ai dit
la double personnalité.
Non mais moi ce qui m'a le plus surpris c'est pas ça, c'est le fait que Cap se ramène à la fin et lui dit ouais t'as vu l'espèce de cerveau là qui t'a poursuivi, c'était toi-même et tout. Enfin Cable a l'air de savoir à quel point le mec est fou.
N'oublions pas que Cable est télépathe.
Ouais.
Télépathe et télékinésiste.
Ouais.
Alors certes, ses pouvoirs ont été réduits, mais depuis que Hope l'a soigné, on sait pas dans quel état il est.
Alors moi ce que je trouve intéressant justement là-dedans, c'est est-ce que Forge est complètement fou ou est-ce que c'est Cable qui le manipule? Et
va
arriver à lui.
Il était déjà dingue.
Oui, il était déjà dingue. Mais est-ce que là, le truc du cerveau, est-ce que c'est Cable, est-ce que ça vient de Cable pour que justement il fasse semblant de l'aider et que Forge lui donne ce dont il a besoin? Ou enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça assez intrigant quand même. Et puis, c'est vrai que c'est assez étonnant, quoi. Forge, quand on pense qu'il est sorti avec Storm pendant des années, il a bien changé, quoi.
Moi, pour moi, le plus étonnant, c'est quand même cette fin. Où on a un Câble avec un bras tout maigrichon.
Parce qu'il a le technovirus.
Ouais, enfin bon.
Normalement, il avait été soigné.
Hope était censé avoir soigné. Alors, je veux bien qu'il ait moins de muscles parce que son bras était atrophié, etc. À la rigueur, passons. Mais de là, se faire remettre un bras mécanique, faut quand même être sacrément con. Hein.
Regardez, simplement un bras mécanique, peut-être une prothèse en fait, au-dessus du bras.
Regardez la cover, quoi. Enfin, oui, mais enfin, c'est quand même complètement con. Il a qu'à faire de la gonflette, c'est tout. Bref, pour moi, c'était un peu crétin, quoi. Bon, franchement pas emballé moi sur Spoilt One en général. Hein. La seule série qui m'a vraiment plu c'était Young Avengers. Chose que je n'attendais pas au départ. J'étais pas emballé par Young Avengers et là finalement ça me donne envie.
Oui moi aussi.
Puis allez peut-être Guardians of the Galaxy, j'irai voir les autres, me donne pas envie.
Non. Écoute, moi j'ai été globalement assez surpris en bien, puisque je m'attendais vraiment à une daube et dans l'ensemble plutôt pas mal, à part cette intrigue principale avec Nick Fury qui était chiante comme la mort, quoi.
Pour les autres?
Main avec toi. Le Young Avengers et le Guardian sont très bons, le reste sans intérêt.
Moi c'est un check-it, moi. Ce qui m'a vraiment plu, c'est la partie avec FF et Le reste, bof. À part peut-être Guardians, ouais, avec les beaux dessins de McNiven.
Moi, c'est un petit check-it, hein. Avec bah, les Guardians qui m'ont plu, les Avengers aussi, et ça doit être tout.
Alors, honnêtement, au vu de ce qui s'est passé par rapport au premier Point One, je pense que c'est tout à fait dispensable et que tous les éléments qui ont été mis en place ici seront plus ou moins répétés dans le début des nouvelles séries. Vous pouvez largement vous en passer.
Oui, ça c'est clair.
C'est pas un mag indispensable.
On passe au AVX Consequences numéro 2 sur 5, puisque ça sort chaque semaine, c'est écrit par Kieron Gillen, et cette fois-ci c'est Steve Kerf qui est au dessin, ancré par Alan Martinez. Et on a cette superbe scène d'intro avec un Wolverine qui torche des bières pendant que Cyclope le regarde.
Et puis, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il a quand même une sacrée descente.
Attends, j'ai pas compris, Cyclope regarde d'où?
Bah parce qu'il est au parloir, en fait.
Ah, ok, d'accord, non, mais...
Ah, tu n'avais peut-être même pas lu le premier, mais à la fin, on amenait Scott dans une salle pour qu'il puisse discuter, hein, avec Wolverine qui l'attendait, un pack de bière prêt à être bu.
Non, parce que moi, du coup, j'imaginais la scène classique dans un bar. Alors, je me dis, Scott, dans un bar.
Non, c'est à la prison. Bizarre.
Non, il est pas dans un bar.
Il est déjà sorti, il y a eu un truc, je sais pas.
Et donc,
il y a quelque chose.
Et donc, Wolverine en torche quand même 3-4 avant de commencer à lui parler.
Ouais. Non, ça prend déjà les 3 premières pages.
Les 5, je dirais, moi. Les 5 premières.
Et donc, Scott veut mourir. Voilà.
Il veut mourir pour passer pour un martyr.
Voilà, il veut pas mourir, il veut se sacrifier de manière à passer pour un martyr. C'est pas du tout la même chose.
C'est même presque plus compliqué que ça parce qu'il y a deux lectures en fait. Parce que il y a pas vraiment que le fait qu'il veut être un martyr. Il y a dans la façon dont les dialogues sont écrits, c'est parfois ça fait penser qu'il s'en veut aussi énormément. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment justement de bons dialogues pour
ce
numéro là.
En fait, c'est que d'un côté il dit qu'il veut être un martyr quasiment pour provoquer Wolverine.
Ouais, c'est ça.
Oui, il cherche à le faire se,
voilà,
qu'il
mais
se fasse tuer,
c'est mourir.
Il le titille, il parle même de Jean.
Voilà, oui, parce qu'il sait que ça va le...
Il veut pas se suicider, il refuse à se suicider, il veut qu'on le tue de manière à être érigé en martyr.
Oui, ça, c'est ce qu'il dit. Je pense que, en fait, ce qu'il veut, c'est...
Et en même temps, puisqu'il est quand même relativement jaloux de la position qu'a Wolverine maintenant, puisque Wolverine était dans le camp des gentils, enfin, en tout cas, des vainqueurs, et donc ceux qui vont passer pour gentils aux yeux de la population. Et donc, il est un petit peu jaloux de cette position, et il sait très bien que si Wolverine le tuait, il passerait pour un salaud aux yeux du reste du monde.
Non, mais c'est un enfoiré, Wolverine. Tout le monde le sait.
Attends, tu veux pas me dire que tu penches du côté de Cyclope, quand même?
Bah, si.
Ah, mais je comprends mieux les réactions de merde, alors.
Mais Cyclope a raison. Cyclope avait raison. Cyclope was right.
Non, Cyclope est un con, et il ferait bien de crever tout seul.
Mais voilà. Si tu regardes AVX, si les Vengeurs s'en étaient pas mêlés, il aurait pas eu la merde.
Ouais, alors non. Il était censé avoir réparé le monde.
Phoenix Force.
Hein,
Attends, non, mais t'étais où, Sam, Phoenix Force et compagnie, c'était de la connerie, tout ça, de faire confiance au Phoenix.
Oui. Rappelle-toi qu'il était censé avoir réparé le monde, il a rien réparé du tout, quoi.
Oui, non, au contraire, ça aurait été.
Apparemment.
Ouais, mais enfin, là, on va aller dans de l'analyse d'AVX, mais sa théorie au départ, c'était de laisser le Phoenix venir sur Hope pour qu'elle puisse restaurer les mutants.
Et enfin, il y avait aucune preuve qu'elle puisse restaurer les mutants au départ.
Ouais, mais au final, il avait raison.
C'était
d'où le Phoenix.
Il avait raison parce que grosso modo, il se doutait que c'était un avatar du Phoenix Hope.
Au final, mais... c'est ce qui s'est passé.
Elle a réussi parce qu'elle était avec Wanda et Wanda peut manipuler la réalité. Si elle avait été toute seule comme une femme, peut-être qu'elle aurait pas pu.
Et je pense aussi que le fait de les avoir vus péter les plombs à ce point-là lui a permis de diriger le Phoenix en Phoenix blanc et non plus en Phoenix noir. À mon avis, c'est aussi pour ça qu'elle a réussi à transformer les choses et à l'utiliser en force curative et non pas en force destructrice. Je pense, hein. Après, pareil, encore une fois, ça reste...
Bon, sinon, je dirais une bonne surprise quand même dans l'ensemble. Moins pourri que le premier où il se passait rien.
Oui.
Par contre, c'est par accord avec le Uncanny X-Men 20 dont on parlera tout à l'heure.
Et graphiquement, c'est quand même plus joli que le dernier.
Ouais, bof.
C'est quand même mieux. Et il y a un petit côté... Enfin, j'ai bien aimé la fin aussi... Enfin, il y a le côté histoire qui se passe en prison. Là, il y a tous les poncifs qui viennent, mais bon, c'est marrant.
Celui-ci, c'est un check-it. Hein.
Oui, un bon check-it. Bah, le premier, c'était un pass, donc c'est une amélioration. Hein.
Ouais, un check-it aussi.
Corwin. Check-it pour moi aussi, ouais.
Ok, on continue avec toi, Corwin, qui va nous parler du Venom numéro 26.
Oui, alors qui est la troisième partie de Minimum Carnage, écrite par Cullen Bunn, et on retrouve Declan Shalvey au dessin. Donc dans le numéro précédent, qui date de la semaine dernière, mais tant pis, je vais spoiler un peu.
J'en avais parlé hein, de toute façon.
Ouais, on retrouvait Scarlet Spider et Venom qui se retrouvaient dans le Microverse à la poursuite de Carnage. Et donc évidemment, ils sont chacun retrouvés à un bout différent du Microverse. Donc là, dans cet épisode, on va un peu voir comment ils risquent de se retrouver, et puis aussi les deux héros rencontrent des personnages importants du Microverse pendant que Carnage commence à faire la mission pour laquelle il a été envoyé là-bas. Donc c'est pas mal, on reste sur la ligne des deux précédents numéros. Ça bouge, le numéro bouge un peu moins que les précédents d'ailleurs. Mais l'histoire avance, on commence à voir les différents protagonistes et comment ils vont agir les uns avec les autres. Donc moi cette mini-série me plaît toujours et continue à me plaire, donc je continuerai à aller voir la suite, quoi. Voilà. Donc pour moi c'est un petit bail.
Alors on va continuer maintenant avec le troisième numéro de Hawkeye et Kinghead.
Ouais, donc Matt Fraction au scénario et David Aja au niveau des dessins. J'avais pas été très emballé par le numéro 2, après un numéro 1 qui était pas mal, et là ce numéro 3 ça a presque été mon coup de cœur cette semaine. C'est vraiment toujours l'histoire de Clint Barton et pas vraiment de Hawkeye, puisque on le voit pas une seule fois avec son costume, mais on voit un petit duo qu'il fait avec justement Kate Bishop, et on le voit être en mauvaise posture, puisque pour les beaux yeux d'une nana qu'il rencontre dans la rue, il se retrouve embarqué dans une histoire d'enlèvement, de poursuite par des tueurs qui sont tous dans des petites coccinelles. Enfin, c'est complètement foufou. Et en plus, j'ai bien aimé la narration, en fait, puisque ça commence, il dit qu'il a fait 9 erreurs cette journée-là, et en fait, il va détailler toutes les erreurs qu'il a fait au cours de sa journée, et ça va crescendo, et c'est vraiment très drôle, et on voit tous les types de flèches qu'il utilise, et ça m'a beaucoup plu. Il y a des flèches complètement, complètement cons, et, non, franchement, c'était très drôle, et artistiquement, je trouve que David Aja a fait encore un super boulot. C'est super. Donc c'est limite de l'indé, c'est pas du super-héroïque. C'est le seul petit truc que je trouve négatif, c'est que ils avaient fait déjà dans le premier numéro pas mal d'utilisation du terme bro. Il y avait ce fameux gars qui dit bro. Oui. Et là ils nous refont le coup avec les nouveaux méchants qui disent bro tout le temps et ça fait un peu répétition pour ce ressort comique en fait. Mais sinon pour le reste, c'est vraiment j'ai trouvé une bonne histoire.
Peut-être que Matt Fraction déteste complètement ce mot utilisé à tort et à travers et qu'il en profite pour essayer de faire passer un message.
C'est clair, mais non, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé.
Tu l'as lu aussi, Sam?
Oui, à mon corps défendant. un excellent... un excellent épisode fini d'une série dont j'entends toujours qu'elle démarre. Voilà.
Ça s'est fait.
Tout est dit, ouais.
Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a pas d'histoire globale, c'est juste une journée de merde dans la vie de Clint Barton, donc c'est un épisode film pour moi.
Ouais, pour moi c'est un bail et ils ont vraiment rendu pour moi ce personnage intéressant dans l'univers 616 et ils en font un super en plus playboy qui a vraiment la classe et
Oliver Queen.
Ouais
c'est juste un peu le même.
Je rappelle avec à peu près tous les Vengeurs femmes qu'il y avait dans l'équipe hein.
Ouais, mais
je crois qu'à part Carol Danvers, ils sont tous passés. Hein.
Donc j'aime bien ce personnage du coup. Voilà. Pour moi, c'est un bail. Très bonne surprise.
Un check-in pour moi.
Très bien. On continue avec un one shot qui sera point nommé pour Halloween. C'est le Marvel Zombies. J'ai oublié le titre. Marvel Zombies Halloween. Voilà.
Tout simplement. Donc à l'histoire, on retrouve Fred Van Lancy et au dessin Alessandro Vitti. Donc on sait pas trop où ça se passe dans quel univers, c'est juste ça commence un peu comme un Walking Dead mais en moins
en nul
en moins violent j'allais dire. Bon, il y a une femme qui vit seule dans une vieille maison avec son fils et qui désingue du zombie à tour de bras tous les jours pour survivre. Donc qui vivent en dehors du massacre de zombies comme ça, et elle lui explique ce que c'est qu'Halloween et que c'est une fête, un peu comme l'anniversaire de son père qui n'est plus là. Et donc il décide de faire la fête, même si c'est l'apocalypse dehors. Donc le gamin va se déguiser, et puis ils ont un petit chat qui se barre, et il va aller chercher son petit chat, et là-dessus il tombe sur les zombies super-héroïques, qui se font désinguer par sa maman qui est venue le sauver. Et on se rend compte que c'est Kitty Pryde. Je spoil un peu l'histoire, mais il n'y a pas de gros twists dedans. C'est rigolo. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais c'est un peu rafraîchissant, on va dire.
Ça t'a plu parce que le chat ressemble à ta chatte.
Ouais, non, y a pas que ça. Non, c'est que ça a changé. On n'est pas dans un univers super-héroïque, on a des zombies d'un univers super-héroïque qu'on connaît, et puis l'héroïne, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans l'univers normal. Donc voilà, c'est un check-it plus pour moi.
Ah ouais, check-it plus.
Ouais. Non, j'ai pas boudé mon plaisir, hein. Moi ça m'a fait marrer.
Alors on va continuer avec le Daredevil numéro 19, Benny.
Oui, alors Daredevil 19 avec au scénario Mark Waid et au dessin Chris Samnee, voilà. Alors, au fait, Daredevil 19, j'avais pas trop aimé Daredevil l'an dernier. Quand je les lisais, je m'étais un petit peu désintéressé de cette série. Et là, j'ai retrouvé un Daredevil quand même assez sombre, assez torturé. Au fait, Matt Murdock a l'impression de devenir fou. C'est surtout Foggy, au fait, qui s'inquiète pour lui et qui a l'impression que Matt Murdock est en train de totalement péter les plombs. Donc, il essaye de savoir ou non si son pote est devenu complètement cinglé. De son côté, Matt Murdock, lui, affronte un mec qui apparemment a des facultés assez particulières qui manipule, au fait, une rencontre entre gangsters. Et ce nouvel ennemi, d'ailleurs, on le voit en fait en couverture, il s'appelle le Coyote. J'ai trouvé ça assez bizarre, Marvel a déjà présenté ce mec-là alors qu'on le voit à la fin de l'épisode. Donc ça m'a un peu...
On le savait déjà depuis quelques semaines, hein, que Mark Waid amènerait ce nouveau personnage de Coyote, et on se demandait un petit peu qui c'était. Et les questions restent entières, hein, quand même, je trouve, à la fin de cet épisode-là.
Pas totalement, en fait on sait qui c'est.
Est-ce bien lui?
Ah, je pense que c'est lui, mais il a bien changé. Voilà.
Moi, je sais pas. Je me demande s'il y a pas une histoire de dimension étrange où il y a d'autres trucs dedans. Je veux pas en dire plus, mais voilà. Je me demande si ce fameux personnage à qui il ressemble beaucoup n'est pas juste un vil laquais de base.
Enfin, en tout cas, c'est intriguant. On quitte l'épisode sur un bon suspense et puis
la fin est énorme.
Ouais. Ça me rappelle la fin de l'épisode 3, je crois, où il était totalement enchaîné par comment il s'appelait
Clo,
voilà. Ouais. Il y avait encore un côté un peu comme ça. Daredevil se retrouvait dans une situation, même dans une position, je dirais, très inconfortable. Et ben là, c'est pareil.
Mais c'est encore pire même. Je dirais.
C'est encore pire. C'est en perdre la tête. Bon, de toute façon, on a un indice sur la couverture déjà, donc ouais. C'est pas vraiment du spoil. Mais mais agréablement surpris, franchement, la série reprend un ton un peu plus sombre, un peu plus dark, sans tomber complètement là-dedans, quoi. C'est pas Green and Gritty non plus.
C'est le style Mark Waid qui l'a amené sur Daredevil depuis le départ. C'était juste un côté coloré, jovial de façade. Ça se voyait dès qu'on avait passé le premier arc avec l'homme taupe. Avec le fait que l'homme taupe enlevait des cadavres et tout, on sentait très bien que Mark Waid partait dans cette direction complètement glauque, et on continue dedans justement.
Ouais, enfin voilà, donc j'aime bien, ça pourrait être mon coup de cœur s'il n'y avait pas autre chose que j'ai lu cette semaine.
Moi c'est mon coup de cœur de la semaine.
Mais voilà, donc très bon épisode, un bail, je vais recommencer à lire du Daredevil, donc tant mieux.
Et bah tu as entièrement raison. Il faut aider Mark Waid, il ne fait pas assez de projets, je trouve, et il a besoin de sous. Non, je plaisante. Mais c'est un scénariste de talent, et voilà, il le prouve sur Daredevil, en nous amenant dans une direction, puis en partant dans une autre. Donc pour moi, aussi un gros bail, puisque c'est mon coup de cœur de la semaine. Et on va continuer chez Marvel avec le Avengers Assemble, Sam.
Oui, toujours écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Mark Bagley, donc c'est le dernier épisode de Bendis sur la série. Et j'ai eu cru à un miracle sur les premières pages. Je me suis dit, ça y est, Bendis va arrêter de se foutre de notre gueule, puisque on arrive à la conclusion de la bataille contre Thanos. Et Thanos, comme il est marrant, il envoie les Avengers dans le Cancerverse. Donc ça y est, je me suis dit, Bendis va se servir de ça pour faire le lien avec la fin de Thanos Impérative. On va enfin avoir une grande explication sur mais comment Peter Quill et Thanos sont revenus, et pas Nova. Eh ben non. C'est-à-dire que...
ça tombe à plat.
C'est Bendis. Voilà.
C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, Tony Stark demande à Peter Quill « Mais tu as réussi à t'échapper du Cancerverse, comment as-tu fait ?» Et là, on a une superbe case silencieuse où Peter Quill regarde intensément Tony Stark. J'ai presque cru qu'il allait l'embrasser. Voilà. C'est... Bon, et bien évidemment, à la fin, Thanos gagne, l'univers Marvel est rayé de la carte. Hein, évidemment, c'est la fin, voilà, bon. Petite élogie sur l'univers Marvel. 50 ans, sympa. C'était bien marrant. Bon, bah, on va voir ce qui se passe chez DC maintenant.
On en conclut donc que tu n'as pas aimé. Benny, tu l'as lu?
Ouais, je l'ai lu. Disons que C'est vraiment du Bendis dans toute sa splendeur, donc c'est pas un compliment. C'est
dans tout sa Bendis,
une menace totalement démesurée qui limite pire finalement que le Phoenix, AVX et tous les crossovers de ces dernières années réunis. Je pense qu'on pouvait pas faire pire que ça.
Et pourtant, il nous reste encore Ultron War qui doit nous écrire.
Oui, oui. Et même Ultron War ne sera pire que cette menace-là. Donc ça, c'était vraiment ridicule et c'est réglé en 3 pages. Ouais. Et puis limite avec le sourire et oh bah les amis, on s'en est bien sortis finalement, dis donc.
Oserais-je un Bendis Jeff Jones même combat?
Et puis non mais attends et peut-être oui ça commence à devenir un petit peu du Bendis le Jeff Jones.
Sauf que Bendis l'a fait en 8 alors qu'en général Jones le fait en 5.
Oh ça dépend. Bon, non, franchement alors là ça dépend. Oh là là ça dépend. Mais il y a aussi le côté Groot qui dit je suis Groot alors t'as Bendis qui est tout content qui fait oh, vous avez vu moi aussi je l'ai fait. Qui écrit ? Il dit je suis Groot. Ah, c'est drôle. Eh, faut rigoler là. Enfin voilà. C'est... franchement, on sent que Bendis pique le jouet des autres et qu'il essaye de s'amuser avec. Et le pire de tout, c'est que je suis sûr que lorsqu'il en aura marre, eh ben il les jettera. Enfin voilà. C'est vraiment non respectueux au fait du travail des autres, quoi. Je trouve limite. C'est du grand n'importe quoi.
Donc vos notes ?
Je t'écoute moi.
Ouais bah pareil. Parce que malheureusement, on peut pas non plus passer à côté vu que. Il va reprendre par la suite Guardian. Ouais. Donc,
Allez, on va terminer avec Marvel avec une fin. C'est la sortie du Uncanny X-Men numéro 20. C'est la deuxième fois qu'on célèbre la fin de Uncanny X-Men. Cette fois-ci pour une durée indéterminée. On ne sait pas si cette série reviendra et quand elle reviendra. Par pitié, en tout cas, changez-nous les auteurs puisque c'est écrit par Kieron Gillen, dessiné par Carlos Pacheco, ancré par Roger Bonnet. Eh ben, on va essayer de boucler un petit peu toutes les dernières intrigues.
Et les idées à la con.
De façon totalement pas bien.
Voilà. Bah, on a 3 intrigues. Danger et le truc, le robot Unit, là. Magic et Colossus et Cyclope en tôle. Et c'est là que c'est par accord avec X conséquences. Voilà.
Ouais, alors là, c'est carrément par accord du tout. On s'est posé la question pendant, je sais pas, un bon quart d'heure, 20 minutes. Oui,
parce que, disons, la conclusion devrait amener à un changement d'attitude de Cyclope et pas à celui qu'on voit dans X conséquences. Donc c'est un peu bizarre.
Alors en fait, il y a 2 écoles.
Comment ça se passe avant?
Tu fais partie de ceux qui pensent que ça se passe après AVX Consequences.
Oui, parce que là, ça serait logique, parce que ça serait raccord avec All New X-Men, puisque dans All New X-Men, on a vu les premiers teasers, on sait que Cyclope est dehors.
Alors que King et moi, on pense que ça se passe avant AVX Consequences.
Et à ce moment-là, c'est Kieron Gillen qui s'est tué.
À savoir qu'il écrit les 2 séries quand même. Hein.
Voilà.
C'est encore mieux. En ce qui concerne Danger et son espèce de pion robot mec, je sais pas quoi.
On s'en fout.
Rien à branler, honnêtement. C'est vraiment nul. Non mais c'est vraiment pourri, donc on s'en fout.
C'est juste Danger qui le laisse sortir. Voilà.
Et enfin, on a Magic et Colossus qui va régler les problèmes Colossus, Juggernaut et
voilà, en une page.
Et puis surtout une nouvelle direction pour Colossus et Magic dans leur relation frère et sœur, une relation je t'aime, je te tue.
Puisqu'on apprenait dans l'épisode du mois dernier qu'en fait si Colossus était transformé en Juggernaut, eh ben c'était la faute à Magic parce qu'elle avait tout préparé. Ça c'est des idées pas connes.
Donc un gros pass pour cette seconde série de Uncanny X-Men sur l'ensemble. Moi pour les 20 numéros c'est du pass.
Là. Non moi je suis un gros pass sur l'ensemble.
Donc gros
pass. Sur celui-là un check it parce que le truc sur Cyclope est sympa. Ça serait encore plus sympa si c'était raccord. Voilà.
Moi j'ai envie de dire si vous voulez relire du bon Uncanny X-Men, relisez Chris Claremont quoi.
Voilà.
À ce tarif là, autant y aller vraiment dans l'ancien.
Ah bah si on veut relire du vrai bon Uncanny X-Men, oui là.
Allez, on va passer maintenant à la partie indé et on commence avec la grosse sortie indé de la semaine et c'est le Cyberforce, le retour de Mark Silvestri dans un projet gratuit financé entièrement par Kickstarter. Kinghead, tu vas nous en parler.
Donc c'est Mark Silvestri au scénario et c'est Coy Pham au dessin. Au scénario, on a également Matt Hawkins, je crois qu'il lui donne un petit coup de main à Mark Silvestri.
Co-scénariste apparemment.
Voilà, c'est ça. Co-scénariste. Alors, je ne connaissais pas la première série Cyberforce, donc je me suis dit bon bah j'espère que c'est un vrai reboot et que je vais pas trop être perdu.
Connaissais-tu la deuxième ?
Non plus. Voilà.
Voilà, c'était juste histoire de faire chier.
D'accord.
Bah, et la troisième.
Je ne connaissais pas, mais je me suis dit, c'est un numéro 1, on va voir si c'est un reboot, est-ce que je vais comprendre. Bah, je me suis bien tombé dans l'histoire, je me suis laissé J'ai suivi ce personnage là, cette nouvelle héroïne là, une jeune fille qui est poursuivie par le gouvernement. On se rend compte après que cette jeune fille en fait elle a un lien familial avec une personne haut placée au gouvernement. Elle fuit, on sait pas pourquoi. On sait qu'elle a eu des visions sur la destruction du monde et elle essaye de trouver une mystérieuse personne qui vit dans les quartiers pauvres. C'est un univers SF un petit peu complètement barré avec des sortes de robots policiers capables d'envoyer des grenades qui changent la mentalité des gens. Enfin, c'est spécial.
Tu vas payer tes impôts, oui. Allez, je t'envoie une grenade.
Mais donc voilà, puis bah après elle se retrouve avec tout un ensemble de personnages qui ont l'air d'être très importants. Après j'ai fait mes petites études sur internet et je me suis rendu compte que c'était l'ancienne équipe de Cyberforce. Et donc voilà, bah c'est le début de l'histoire. Elle cherche une personne, elle veut lui dire quelque chose et elle sait que la fin du monde arrive et qu'il faut empêcher ça.
Si tu as fait tes recherches correctement, t'as dû te rendre compte que ce personnage n'est pas une nouvelle héroïne du tout, c'est simplement Velocity.
Ouais. Et oui, ben c'est ce que je me suis rendu compte après.
Ah, j'avais tout demandé sur Wikipédia.
C'est pour ça que personnellement, je n'ai rien capté au truc, parce que si on a quelques notions très vagues sur le Cyberforce des versions d'avant, on sort de là, mais dans une confusion totale.
En fait, c'est pas indiqué qu'elle s'appelle Velocity. Par contre, on sait qu'elle court vite.
Elle s'appelle Carline. Ouais, c'est marqué. C'est dit. Le nom est dit. De toute façon, c'est Velocity. Et puis de toute façon, le look est exactement le même.
Non, puis même à un moment, ils disent qu'elle court très vite et qu'ils savaient pas qu'elle était capable de courir si vite.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que prenez la première mini-série Cyberforce, vous la refaites aujourd'hui. C'est exactement le même pitch de départ.
D'accord.
Velocity a eu des visions. Elle s'enfuit. Elle veut échapper à sa mère. C'est exactement la même chose, mais mis dans un tout nouvel univers. Avec une conclusion relativement surprenante quand on connaît l'univers de Cyberforce, en tout cas l'univers originel. Faut vraiment voir ça comme une nouvelle lecture, une nouveté totale.
Donc c'est vraiment surprenant. Les newbies de Cyberforce, quoi. C'est très bien pour moi, quoi.
C'est vraiment surprenant. Et, ben moi, je suis plutôt conquis, finalement. J'ai envie de lire cette nouvelle version. Même si finalement, il fait du neuf avec du vieux, quoi.
Moi, ça m'a donné envie, là.
Ouais, mais et puis c'est quand même assez beau. Puis bah, mine de rien, c'est gratuit.
Donc, c'est plutôt cool. C'est gratos.
Totalement gratuit.
Sur Comixology gratuitement ou voilà. Sur les autres plateformes de téléchargement sans doute.
Et vous pouvez en avoir des copies aussi chez votre comic shop, en tout cas si vous êtes aux États-Unis, peut-être en France le aura-t-on. En tout cas, si un comic shop veut vous le faire payer, barrez-vous. Honnêtement, puisque c'est un projet entièrement financé par Kickstarter. Si votre libraire veut vous le faire payer, refusez.
Et si j'ai bien compris, je crois que les 5 premiers numéros seront tous gratuits. Je sais pas si ça ira au-delà de 5 numéros, mais
Bah, en tout cas, c'est prévu pour être une mini en 5, pour le moment.
D'accord. Et donc, on va avoir une mini entière gratuite. Ça, c'est cool.
Est-ce que vous savez s'il y aura des choses comme, tu donnes de l'argent, tu donnes beaucoup, t'as ton personnage qui est créé à ton effigie, ce genre de projet, quoi.
Le financement est terminé maintenant. Je sais pas comment ça s'est passé.
Il y a eu des choses, il y a eu des cover variantes spéciales, il y a eu des sketchs qui ont été envoyés aux plus gros dons. Enfin, il y avait des incitations à donner de l'argent. Mais c'est vrai que c'était il y a 6 mois, quoi. Enfin, voire même plus, quoi.
En tout cas, non, franchement, bon retour, et puis un coy femme.
Ah, c'est beau, hein.
En forme, hein. Pour une fois, il fait pas mal aux yeux.
Mais je pense que voilà, on lui a laissé le temps de travailler, et voilà ce que ça donne quand on lui laisse le temps, et bah, laissons-lui le temps, quoi.
Il y a une bonne colorisation et un bon ancrage aussi.
Oui, c'est vrai, un ancrage de Sal Regla, qui n'est pas un débutant non plus. Ouais, voilà. En tout cas, un gros bail, si on peut dire, quoi. De toute façon, c'est gratuit, checkez-le, ça vous engage à rien, quoi.
Et Ninja.
Sachez parler anglais, pardon. par contre, non, mais vraiment, le niveau d'anglais est quand même pas pour débutants.
Ouais. Bon, non, puis par contre, malheureusement, en France, même sur Paris, ce genre d'initiative et de gratuit, il y a plein de comic shops qui les ont pas, quoi, qui les reçoivent pas.
À qui les ont pas, ou je sais que certains libraires, je n'ai pas de nom, mais je sais que certains libraires font payer des choses qui sont censées être gratuites au départ. Donc méfiez-vous. C'est pour ça que j'insistais bien. Si on veut vous le faire payer, bah vous dites non. Quoi. Vous n'avez pas payé pour un truc qui est censé être gratuit. Sam, pour toi, un bail aussi?
Un check-it, parce que je t'ai dit, j'ai rien capté.
D'accord.
Parce que j'avais quelques notions de Cyberforce, ça m'a plus perdu qu'autre chose.
Et qui aide.
Pour moi, c'est un download it.
Ouais. Ok. On termine avec l'indé, et ce sera le Walking Dead numéro 103.
Robert Kirkman et bien sûr Charlie Adlard, hein, toujours la même équipe. Alors, pour pas du tout spoiler, ça va être pas compliqué du tout, Rick a pris une décision qui vraiment ne fait pas l'unanimité, c'est-à-dire il s'est mis tout le monde à dos, même son fils Carl, donc il passe vraiment un sale quart d'heure, Et comment dire, l'essentiel de l'épisode, c'est un gros pourri qui fait un petit peu son marché chez Rick et ses amis. Pourquoi, comment en est-on arrivé là? Eh bien, il faudra lire Walking Dead en français ou en anglais si vous le suivez. Pour le savoir, en tout cas, c'est toujours très très bon et plein de rebondissements et voilà, un suspense vraiment dantesque.
Et c'est ton coup de cœur de la semaine.
Et c'est toujours mon coup de cœur parce que c'est résolument ce qui m'a donné le plus de plaisir à lire cette semaine, encore une fois. Voilà.
Ok, donc un gros bail.
Un gros bail.
Effectivement. On va passer maintenant à DC avec la sortie du Justice League numéro 13, l'arrivée de Tony Daniel au crayon. Et bien sûr, c'est toujours scénarisé par Geoff Johns. Et cette fois-ci, on retrouve à l'ancrage Richard Friend et Bat-Tam. Alors, comment résumer ça le plus simplement possible? Cheetah Attacks.
C'est les origines de Cheetah.
La nouvelle version.
Alors, on commence sur un gros roulage de pelle entre Wonder Woman et Superman, hein, pour nous dire, vous voyez, c'était pas qu'une fois.
Non, c'est en plus, non,
c'est, en fait, c'était deux.
C'est la suite directe du moment qu'on avait vu dans le précédent numéro.
Eh oui.
C'est moi, se sont envolés, le bisou était tellement beau qu'ils se sont envolés dans les cieux.
Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on nous a dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas juste pour une fois. La preuve, on nous l'a montré deux fois, ils ont pas menti.
Sinon, dans l'ensemble, c'est un épisode de Wonder Woman qui est pas mal.
Dans l'ensemble, c'était justement un truc totalement inutile. C'est-à-dire que ils nous ont dit vous inquiétez pas, la première année c'était pas terrible, mais pour la deuxième année on vous réserve des trucs extraordinaires. Et on commence par un épisode dont on se fout totalement, avec une méchante qui est vraiment qui demande à l'intervention de toute la ligue, alors que c'est vraiment une méchante mais de seconde, voire de troisième zone.
Franchement,
quoi.
Non, elle ne demande pas l'intervention de toute la ligue. Toute la ligue se propose pour aider Wonder Woman.
Non mais qu'importe.
Ah ben non, c'est pas la même chose. Il y a pas la nécessité de la ligue. C'est juste qu'ils se sont proposés.
Mais justement, c'est encore pire. On n'en a rien à foutre. Moi, j'ai pas envie de dire ça. Et on va passer deux numéros là-dessus. Non, mais au secours, quoi. Au secours.
Je sais pas, moi, j'ai bien aimé, dans l'ensemble. J'étais assez surpris parce que c'était quand même mieux que les épisodes dessinés par Jim Lee, déjà.
Cheetah est magnifique.
S'en sort mieux sur les premières pages, s'en sort bien sur les premières pages, je trouve. Ça devient tout pourri vers la fin, mais au début, c'est
pas déconné. C'est quand même vachement bien.
La fin est plus rushée. La fin est plus rushée, ça se voit.
Ouais,
mais à partir du moment où Tony Daniel.
Vers la fin du satellite, en fait, c'est-à-dire au moment où tout le monde se propose de l'aider, là ça devient tout pourri.
Ouais, non. Moi j'ai trouvé ce numéro excellent. Moi j'ai adoré ce numéro de Justice League. Je l'ai trouvé superbe, comme vous dites. Il fait du super boulot, Tony Daniel. Il y a des splash pages qui sont géniales. Oui, j'adore la nouvelle tenue de Cheetah, parce que elle est toute nue. C'est la classe.
Moi, je préfère Cheetah, honnêtement. Si elle avait ce costume-là, à un moment, on la voit avec pas mal d'ombres qui cachent les parties. Je trouvais ce design plutôt joli, quoi. Bon, malheureusement, ce n'était juste que des ombres.
Ouais. Je vais refaire ma blague, c'est Queen Cheetah. Elle est à poil.
N'importe quoi. Bon. Et j'ai trouvé qu'il était mieux écrit que des précédents numéros. J'ai été moins choqué par la caractérisation des personnages. Et le bisou entre Superman et Wonder Woman, ça a été bien traité. J'ai trouvé la scène où ils rediscutent dans le satellite.
Moi, j'ai trouvé cette scène crétin.
Ah non, moi j'ai trouvé ça pas mal. Surtout la symbolique à la fin sur la dernière image. Et puis le cliffhanger à la fin. Hein, j'ai trouvé ça bien.
Ouais. Même si alors là il y a du changement quand même.
Non,
il y a du changement.
Bah, ça par contre j'ai pas aimé.
Il y a du changement dans le personnage de Cheetah. Corwin, tu t'es pas encore exprimé sur ce numéro.
Je vous laissais parler, je sais pas vous couper la parole. Non, alors moi c'est le premier numéro de Justice League que je lis. J'ai pas été paumé, j'ai trouvé facilement mes marques.
C'est la série la plus facile d'accès de toute façon.
Voilà, bah, Donc justement. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Bon, c'est joli. Après l'histoire. Elle est assez classique mais efficace, donc j'ai pas passé un mauvais moment en le lisant. Après, c'est pas non plus la lecture de la semaine.
Ok, on a à la fin un backup qui est scénarisé par Geoff Johns et Jeff Lemire avec Brad Walker au dessin et qui va simplement nous introduire cette nouvelle équipe dont on a entendu parler, Justice League of America.
Il m'a profondément fait chier.
Ah, moi je trouvais ça excellent.
Et moi je trouvais ça pas mal.
Steve Trevor est dans un bar puisqu'il ne fait plus partie, il n'est plus la liaison de l'équipe Justice League. Apparemment, c'est Amanda Waller qui a récupéré les rênes. On verra ce que ça va donner, mais on commence à voir les graines de la dissension dans l'équipe, puisque quand Amanda Waller se pointe, les malheurs arrivent.
On sait très bien ce que ça va donner, une nouvelle équipe, un peu underground, emmenée par Steve Trevor, un petit peu le New Avengers d'Avengers, quoi.
Mais c'est, voilà. C'est les prémices aussi de Trinity War avec le retour de ce fameux symbole qu'on avait vu à la fin de Justice League numéro 6.
Non mais de toute façon, si vous regardez bien, DC prend la formule qui a fonctionné chez Marvel, quoi, c'est tout. Ils refont du Avengers, ils refont deux équipes, ils vont nous faire un Civil War avec une scission dans l'équipe, enfin voilà, ils vont nous refaire tout ça, quoi. Mmh. En même temps, ils auraient tort de s'en priver puisque ça va fonctionner.
Ok, donc pour moi c'est un bon check-it. Ce sera pas pareil, un bon check-it.
Un bon check-it pour moi aussi.
Pareil, un bon check-it de mon côté.
Pour ma part, c'est un bon gros bail.
Moi c'est un pass, quoi.
Ça c'est fait. On continue avec le coup de cœur de Kinghead, c'est le Wonder Woman numéro 13.
Avec Brian Azzarello au scénario et Tony Atkins au dessin. Toujours aussi bon cette série avec le panthéon des dieux olympiens, on en découvre encore de nouveaux personnages, on voit un peu ce qu'Apollon a prévu de faire maintenant qu'il est devenu le chef de l'Olympe. Moi j'ai adoré ces scènes qui étaient sur l'Olympe. Et après on a c'est vraiment la suite du numéro 12 dans le sens où on voit Wonder Woman avec Zola et ils essayent de réfléchir comment ils peuvent remettre la main sur le bébé. Et en fait ils apprennent que, enfin elle apprend que Zeus a eu 7 enfants pendant le 20e siècle et donc ils essayent de retrouver les frères et sœurs pour venir leur donner un coup de main et récupérer ce bébé. Donc non, c'est passionnant, c'est drôle. Enfin, il y a des scènes avec Hera qui sont à mourir de rire, et des scènes mystérieuses aussi au début avec l'apparition d'un personnage dont on ne sait pas vraiment qui ça peut être, même si j'ai ma petite idée. Moi, j'ai trouvé ça super. Donc voilà, un gros bail du super Wonder Woman.
Ça reste un bail pour moi aussi. Moins convaincu par le dessin de Tony Atkins sur cet épisode, notamment sa Diana qui est sur certaines cases particulièrement horrible. Ouais, mais sinon, dans l'ensemble, ça reste un bail.
D'accord, rien de plus à ajouter.
Ouais. Bah non, c'est très bon.
D'accord, très bien. On continue dans les séries à tendance fille, hein, mais c'est façon de parler, avec la sortie du numéro 1 de Sword of Sorcery, qui comprend bien sûr deux histoires, Améthyste d'un côté et en backup Beowulf. Améthyste est écrit par Christy Marx, dessiné par Aaron Lopresti, et à la fin du premier épisode, on avait Améthyste, hein, la Princess of Gemworld, qui n'est pas rappelé comme ça dans ce nouvel univers, qui débarquait dans l'univers d'Améthyste, justement. C'est un univers géré par les pierres, en apparence, en tout cas, puisqu'on parle de diamants et d'autres pierres précieuses, en pleine bataille, et on sait que sa tante, qui a récupéré la royauté de toute cette espèce de dimension, n'est pas très très gentille, enfin bref. Elle se retrouve au beau milieu de ce conflit, elle ne comprend rien, elle est en terre totalement étrangère, et elle va découvrir avec sa mère qui l'a ramené donc son monde natal peu à peu comment marche ce monde et quelles sont les forces en présence. C'est toujours aussi sympathique, c'est toujours aussi frais. C'est pas la grande lecture, loin de là, mais ça passe bien. On est dans un univers heroic fantasy, c'est peut-être ce qui manquait à DC. Un univers heroic fantasy qui n'est pas trop glauque, contrairement à Demon Knight par exemple, qui est quand même beaucoup plus sombre.
Oui.
Donc ça se lit franchement très facilement, c'est agréable, les dessins sont plutôt pas mal. On découvre plusieurs peuplades et puis on va voir d'où ça va aller. En tout cas, le cliffhanger est sympathique et on a envie d'aller voir la suite. Même si on a une idée déjà de ce vers quoi ça va tourner, parce que malgré tout, les mystères en cette série ne sont pas si compliqués que ça à percer. Le backup de Beowulf est lui écrit par Tony Bedard avec Rhesus 16 au dessin. Et en continuant cette ambiance futuriste, on sait pas trop à quelle époque on est, là Beowulf va tomber face à des golems de fer qui sont en fait des espèces de robots géants et qui ont une technologie Wayne Tech, alors on est encore un peu plus perdu. On continue la légende de Beowulf, tout ça placé dans un futur post-apocalyptique. C'est vraiment pas mal, Rhesus 16 nous fait de très belles pages, un peu moins bonnes que dans le premier numéro, mais ça reste quand même du très bon Rhesus 16. Donc pour moi, c'est un très bon check-it, ce Sword of Sorcery, et si vous avez envie de découvrir quelque chose un peu plus heroic fantasy, n'hésitez pas. On va continuer avec le Red Hood, numéro 13.
Ouais, Scott Lobdell et Timothy Green 2, malheureusement, et Taux Dessin. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible, ça fait vachement années 90, Timothy Green, mais on termine cet arc quand même essentiel de la guéguerre qui oppose les deux sœurs, donc Starfire et sa sœur Maléfique. On est clairement dans du Scott Lobdell, puisqu'on retrouve totalement l'ambiance de Lilandra face à... comment elle s'appelait ? Deathbird, si je dis pas de bêtises, c'était bien Deathbird.
Hein, c'est ça, Deathbird.
Donc un petit peu cette ambiance dans l'espace, assez déjantée, avec un Redwood et un Arsenal qui sont toujours assez déconnants, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà.
Le barbare.
Exactement.
Merci de mon intervention ultime.
Ils ont un petit côté barbare aussi. Bah reste cette fin où on nous lit quand même le tout assez laborieusement avec ce qui se passe dans Batman quand même, c'est important. Donc ce retour du Joker, bah voilà, donc bon, pourquoi pas. C'est toujours une lecture sympathique, bien fun. Ouais, je sais pas qu'est-ce que ça va donner maintenant que ça va faire partie du crossover qui est bien glauque Death of the Family, mais en tout cas, je serai toujours client. Si c'est toujours Scott Lobdell, d'ailleurs, je sais pas s'il reste ou pas sur ce titre, je sais plus.
Pour le moment, je crois pas qu'il était annoncé à partir. Hein.
D'accord, bon bah tant mieux quoi. Puisque c'est à mon avis le titre qui tient le mieux, en tout cas.
Donc un bail?
Ouais, un bail. Un petit bail, hein, c'est pas la lecture ultime non plus, mais c'est toujours sympa.
Toujours dans la Bat Family, le Batwoman est sorti cette semaine.
Ouais, Batwoman, super titre. Alors on a J.H. Williams 3 au scénario et au dessin. Au niveau du scénario, on a aussi Aden Blackman qui intervient. C'est la suite de cette histoire où Batwoman en fait recherche Medusa, l'organisation Medusa, et elle s'était rendu compte qu'en fait c'était carrément la créature mythologique qui était derrière cette organisation. Et donc elle demande un petit coup de main, et elle demande le coup de main de Wonder Woman. Donc c'est un team-up entre Batwoman et Wonder Woman qui vont dans le Arkham Asylum des mythes, puisque c'est là où sont enfermées toutes les créatures mythologiques normalement très dangereuses. Et on a droit à un super numéro, c'est magnifique, avec toujours cette inventivité dans la mise en scène et dans la disposition des cases. Bah c'est super. Et il y a une bonne alchimie en plus entre les deux personnages. On a en parallèle des monologues sur chacun des personnages sur comment il ressent l'autre. Et j'ai trouvé ça bien écrit. C'est presque plus du roman par moment, parce qu'il y a énormément de choses écrites sur des grandes pages avec un seul gros dessin. Mais ça prend du temps à lire. Mais qu'est-ce que c'est beau. Il y a une scène folle, presque quasiment dans le noir, avec que des écritures. Avec derrière des ombres de scolopendres qui représentent une vieille divinité de la mythologie. C'est super quoi. Et donc voilà, moi j'attends la suite avec impatience et j'adore cet arc qui fait le team-up entre Wonder Woman et Batwoman. Un gros bail.
Pour terminer avec DC, nous allons parler du Green Lantern New Guardians numéro 13 qui est sorti cette semaine, qui entame le crossover Rise of the Third Army. Corwin.
Alors au scénario on retrouve Tony Bedard et au dessin on a un duo avec Andrei Bressan et Amilcar Pina. J'espère que j'ai bien prononcé.
Ouais. En tout cas c'est loin d'être fameux. Hein.
On était vraiment habitués à lui. Vu Adop qui sortent, on peut écorcher leur nom.
Moi j'ai bien aimé.
franchement, c'est très par rapport à New Guardians avant, on descend en qualité. Hein.
Alors au niveau du dessin oui, après moi j'ai trouvé que l'histoire était pas mal. On a Atrocitus qui est là pour entraîner Kyle à manipuler la rage. Et donc il essaye de le pousser dans ses retranchements et puis finalement il trouve le moyen de faire sortir la partie rageuse en lui. Et donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était pas mal, c'était relativement bien amené, et puis on a une évolution de Kyle. Maintenant il fait plus que manipuler les bagues, les avatars des différentes lanternes sortent de lui comme ça, pop pop. Donc j'espère que ça sera aussi bien pour les prochaines couleurs.
Surtout on sent que ça le change profondément.
Oui, il y a une différence aussi dans sa personnalité qui est exprimée. Donc faut voir dans quel état il va être à la fin une fois qu'il manipulera toutes les couleurs. Donc moi c'est mon coup de cœur de la semaine pour l'histoire quoi. J'ai trouvé qu'on avançait et que Kyle justement était de plus en plus enfin, il changeait de plus en plus, le personnage évoluait, c'est ça qui m'a plu.
Sam.
De la merde.
Direct.
De bout en bout. Le scénario est à chier, le dessin fait mal aux yeux, limite j'ai saigné devant l'épisode. Franchement, non, c'est de la merde. De bout en bout.
Si tu n'as pas lu tous les anciens New Guardians, ça peut s'expliquer.
Ah mais je m'en fous de pas avoir lu les anciens Guardians. C'est de la merde. De bout en bout.
D'accord. Ça a au moins le mérite de ramener son ancienne petite amie dans l'équation. Elle a bien été là et elle a bien fini dans le frigo.
Oui. On a toujours éliminé Jade et Donna Troy, puisque c'était ouais. Ses deux copines suivantes. Donc,
mais en tout le cas, milieu n'a eu qu'une copine.
Par contre,
celle-ci est là.
On voit pas Géoforce.
Non, mais ça sera peut-être rappelé ensuite. Mais en tout cas, elle a fini comme ça. On nous dit pas comment, mais elle a fini comme ça. Et c'est déjà un bon point, puisqu'on nous avait fait comprendre que Kyle avait toujours été célibataire. Au tout départ de New Guardians. Donc finalement, une petite rétro-continuité, bien placée, et c'est reparti comme avant. Bon, moi sinon après, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter, un épisode qui se laisse lire. Par contre, Rise of the Third Army, assez peu d'importance pour le moment.
Il y a une page.
Oui, il y a une page.
Il y en a plus, il y en a...
Voilà. Il a fait comme Jeff Jones.
Oui, voilà, ça,
Jeff
ça fait.
Donc je peux faire pareil.
Ça fait quoi Green Lantern, c'est vrai que...
On va terminer très vite avec un mail de Coriolano qui nous a répondu, nous avait écrit la semaine dernière et on lui avait donné quelques réponses. Alors malheureusement on va être obligé de faire une réponse très courte pour ne pas dépasser le temps. Donc Coriolano nous dit salut, d'abord merci d'avoir répondu à mon mail dans un podcast, mais je tiens à préciser que ce n'était pas une complainte comme vous l'avez dit, simplement une question. Non non, t'inquiète pas, c'était pas complainte hein, du tout, je précise bien maintenant.
Ah bon, je n'ai pas de complainte.
je n'ai pas de complainte envers des amateurs qui font du très bon travail gratuitement. Non monsieur, nous sommes des professionnels. Et la liste des séries que j'ai citées, ça n'était pas forcément des séries que je suivais, mais plutôt des séries relativement connues et non super-héroïques, pour illustrer mon propos quoi. Et pour Kinghead ou Bunny, je ne sais plus, la question n'était pas indé ou pas indé, mais la proportion de super-slip, sachant qu'il y a des super-héros chez Image, IDW, etc. Voilà, puisque j'écris ce message...
Tout de suite qu'on est con, hein. Ah, vas-y, non mais... Je
termine son mail, il nous dit donc voilà, puisque j'écris ce message, j'ai du coup une autre question. Vous lisez d'autres genres de BD que le comics, manga, franco-belge? Si oui, pourquoi? Et sinon, bah pourquoi aussi? Voilà, sinon félicitations pour vos podcasts, j'aime spécialement la séparation Comics Weekly et Weekly News, et j'aime bien quand c'est un peu long, mais pas quand ça dure 4 heures non plus, jusqu'à 1h30, je pense que c'est tout à fait supportable en tout cas. À bientôt les comics. Bah, lisez-vous autre chose.
Bah oui, moi je suis un gros fan, un gros lecteur de manga.
Comme ça, moi aussi j'en ai beaucoup, j'en ai lu beaucoup et j'ai commencé par les mangas avant de passer aux comics. Moi.
Idem.
Corwin.
Bah moi je dois lire un peu moins que vous deux, mais c'est pareil, je suis quelques shonen. Et puis après je lis aussi du franco-belge.
D'accord. Des gros jeux.
Je lis tout. Bah il y a des choses pas mal.
Ah non, je dis pas que c'est mauvais, en fait j'ai réessayé de m'y mettre il y a pas longtemps et j'ai arrêté quand j'ai vu les prix.
Ah oui.
Le quota prix quantité c'est hors de question.
En fait ils veulent en faire un produit de luxe et c'est dommage parce que il y a très
voilà, c'est moi ça me bloque.
À mon goût ils sont en train de tuer le marché franco-belge hein, mais
ouais.
Ah, ils l'asphyxient complètement.
Benny?
Non, bah écoute, j'ai essentiellement des comics ces dernières années quand même. Bon, sinon des livres, un hein, embout quand même, avec des mots, sans images, ça arrive.
Non,
aussi.
Et attends, tu y arrives? Oui, moi je peux pas.
J'y arrive encore. Ouais.
Si j'ai pas des dessins de Larry Stroman, je peux pas lire moi.
Non, voilà. Mais sinon niveau BD, essentiellement du comics, parce qu'il y a tellement de choses. Finalement, il n'y a pas que le super-héros dans la vie quand même, donc que j'y trouve mon compte quoi. Les mangas très très peu finalement. Ces dernières années, j'ai lu du Gans et j'ai peut-être lu d'autres mangas, mais je m'en rappelle même plus. Enfin voilà, ça m'a pas tellement marqué. Les mangas, c'était surtout il y a très longtemps quoi, quand j'étais petit. C'était vraiment ma grande passion parce que effectivement, il y a toujours eu le problème que les comics, ça coûtait plus cher. C'était vraiment un investissement bien plus cher que le manga. Qui avait un prix fixe et puis qui était pas... Enfin, tu te rappelles des mangas j'ai lu, Steve, hein, c'était bien vraiment sûr. Pas cher, quoi. Tu pouvais à l'époque lire pour pas grand-chose, quoi.
Tu pouvais dire j'ai lu. Voilà, ouais. Donc ça c'était ouais, la, vanne okay. De, la, fa- ouais. La vanne de fin.
C'est mouvant, d'ailleurs.
Comme Kinghead ou comme Bunny, moi aussi j'ai commencé par les mangas. Et puis principalement parce que on avait suivi tous, parce qu'on est de cette génération-là, les animés à l'époque du Club Dorothée, ouais, et que forcément... Ouais. Quand on voit que ça existe en BD, et ben on se dit ah ben je les veux tout simplement. Et puis après dans un comic shop que j'avais par chez moi où je me fournissais en manga, il y avait aussi des racks et des racks de comics monstrueux. Et puis
j'ai compris, il y avait aussi des rats.
Non, des racks. Des racks de comics. Et attiré par toutes ces couleurs chatoyantes, et bien j'ai viré ma cutie et je suis passé aux comics. Non, puis depuis je ne lis plus grand chose d'autre que des comics, des romans bien sûr, mais pas le temps, pas l'argent, et pas forcément le même storytelling, puisque ce que j'apprécie honnêtement le plus dans les comics, c'est surtout cette notion d'univers partagé, même si j'ai tendance aujourd'hui à me diversifier un peu plus vers l'indé, où il n'y a pas forcément cette notion-là, mais c'est quand même quelque chose que j'apprécie énormément, et que je ne retrouve pas ni dans les mangas, ni dans le franco-belge. Bien évidemment, c'est pour ça que je continue à lire autant de comics.
Il y a eu des jeux vidéo qui ont rassemblé les univers, genre de Dragon Ball avec Naruto et compagnie.
Ouais, mais les jeux de baston, c'est pas mon truc. Que ce soit comics ou manga d'ailleurs, pour ma part. Voilà, désolé, on est obligé d'écourter un petit peu la réponse, Coriolano, mais en tout cas, merci pour ton mail. Et t'inquiète pas, on n'avait pas du tout pris ça comme une complainte, ton mail, bien évidemment.
Non, nous, on est content quand on reçoit des mails.
Oui, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lit le suivant, hein. Il n'y a pas de souci. Ça nous fait plaisir. Et puis, c'était une question qui, je pense, t'a rodé peut-être aussi beaucoup plus de monde que ça. Donc, voilà.
T'a rodé, ça faisait longtemps. Je trouve qu'on n'emploie pas assez ce verbe.
Je pense qu'on l'avait pas employé depuis le 4 avril 1972. Donc, je me suis dit qu'il était temps de leur mettre au goût du jour. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, re-suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, retrouvez-nous sur le site www.comiccity.fr et puis faites Coriolano, envoyez-nous des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr, nous la lirons en fin d'émission. La mission la plus adaptée, hein, bien sûr, si ça concerne la VF, nous lirons ça dans Comic City, si c'est plutôt une question sur la VO, dans le Comics Weekly, et puis pour toute autre question, il y a aussi le Weekly News, quand c'est un peu plus généraliste, et voilà, ça nous permet d'avoir un petit peu partout des mails de nos auditeurs. On vous remercie, on vous dit donc à la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, lisez bien, lisez avec les mains.
Oui, allez, et avec les yeux, ça peut servir.
À la semaine prochaine.